Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 19h20 et vous écoutez Europe 1 en ce début de mois d'avril. Nous sommes le 3 qui commence pour Pâques avec un joli moment en famille autour de Xavier Dupont de Ligonnès et qui se termine en film d'horreur. C'était il y a 10 ans. Bonsoir Anne-Sophie Martin.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous enquêtez depuis 10 ans sur cette affaire. Lorsqu'on relit votre enquête Le Disparu qui paraît en poche ces jours-ci, on constate que vous êtes sans doute la journaliste la mieux renseignée de France sur ce dossier avec des documents exceptionnels. Mais je voudrais commencer avec ce que vous citez d'ailleurs et ce que vous avez dit un jour, Pierre Belmar. Les plus belles affaires sont les affaires non élucidées. Bon, c'est QFD.
Oui, c'est QFD avec cette affaire. En tout cas, 10 ans après, elle ne l'est toujours pas. Et il y a une sorte d'attraction, je pense, ça hante certains, je crois, parce que évidemment il y a un crime familial horrible et un suspect, l'homme le plus recherché de France, un auteur présumé qui est totalement introuvable, qu'on cherche partout, qui est signalé mille fois depuis le début de cette décennie et sur lequel on n'arrive pas à mettre la main et qui ne se rend pas non plus. Il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas d'arme du crime, il n'y a pas de mobile. On ne sait pas à quoi correspond la scène de crime dans la maison de Nantes. Voilà, donc ce ne sont que des interrogations et des mystères un peu en poupée gigogne, si vous voulez.
Oui, absolument.
Donc, c'est fascinant, je pense.
Oui, et j'ajoute à cela, pour entretenir ce suspense, si j'ose dire, dans cette affaire macabre, votre intime conviction, Anne-Sophie Martin, après des années de travail et d'enquête, pour vous, Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant.
Oui, alors je suis... Quand je dis ça, c'est que en fait, j'ai un certain nombre, j'ai 25 ans, un dossier derrière moi, etc. Mais c'est que, en fait, au départ, moi, je suis partie sans conviction ferme, absolue sur cette affaire, évidemment, hein, puisqu'il n'y a pas de preuve matérielle contre cet homme. Donc, je suis partie sans conviction. Mais au fil de mes enquêtes et au fil des éléments que je pouvais trouver factuellement et au fil des témoignages que je recueillais, je me rendais compte en fait qu'il n'avait absolument pas le comportement de quelqu'un de suicidaire et que tout indiquait qu'il avait voulu organiser les choses, les surorganiser presque selon une méthode de mise au point très savamment. Il organisait finalement une évaporation. Et donc ça, quand on organise ça, alors au départ je me disais ça peut être pour se suicider dans un endroit où on ne le retrouverait pas et pour disparaître et partir dans une cavale très facilitée par le fait qu'il n'est pas recherché au moment où il disparaît, cet homme. Donc évidemment il peut faire ce qu'il veut, qu'il a imaginé, sans que, si vous voulez, on ne puisse l'attraper tout de suite. Donc en fait cette espèce d'avance de 3 semaines entre les faits certifiés par la médecine légale, etc., et la découverte de sa voiture 3 semaines après, le 22 avril 2011, sur un parking du Var, eh bien voilà, il a organisé les choses. Et donc, ce n'est pas le comportement de quelqu'un au bout du rouleau qui est suicidaire. Et par ailleurs, en revanche, ce qui est assez fascinant, c'est que dans les écrits que j'ai retrouvés, un mail à son ancienne maîtresse et à ses amis, qui date juste de l'année d'avant, donc 2010, dans ses mails, il dit « je vais tout foutre en l'air, mettre le feu à la maison, droguer tout le monde et me foutre en l'air ».
Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il scénarise.
Hein,
parce que vous avez bien dit, Anne-Sophie Martin, qu'il n'y a pas de preuves, mais il y a de très nombreux documents. Cet homme écrivait beaucoup, des mails, des messages, il écrivait sur les forums internet, vous avez retrouvé, les enquêteurs ont retrouvé, vous avez exhumé ces brouillons de lettres, tout ça, il pensait les avoir fait disparaître, vous avez retrouvé tout ça, et vous travaillez sur cette matière-là. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a quasiment des scénarios de ces disparitions. Alors il évoque le suicide individuel, le suicide collectif, se foutre en l'air pour que sa femme touche 600 000 euros d'assurance. Tout cela est écrit. Les écrits restent.
Tout ça est écrit, oui, tout à fait. Oui, oui. Scripta manent, dit-on en latin.
Oui, oui.
Mais en fait, voilà, donc effectivement, ce que j'ai trouvé comme un immense vertige ou une mise en abîme, c'est que quand on regarde ses écrits, évidemment qu'il pensait avoir supprimé, mais qui ont été exhumés du web, eh bien, on découvrait que finalement, pas à pas, il s'était presque forgé dans sa tête, si vous voulez, un scénario. un scénario, le scénario de la liquidation de cette famille parce que le manque d'argent allait jeter sur elle le déshonneur et l'opprobre sur lui qui jouait un rôle en vitrine sur scène publique de self-made man bourré d'idées, bourré de réussite et d'énergie. Et qui en fait était au bout du rouleau finalement. Et c'est ce dévoilement-là que l'on découvre en lisant ses écrits. Et seulement ses écrits, parce que son comportement social, aller danser la dance country tous les vendredis après-midi, voyez, enfin, c'est dans sa voiture, toujours en train de blaguer, etc. Il fait tout le monde en fait. Hein. Donc c'était l'apparence. Puis derrière l'apparence, il y avait finalement les angoisses. Enfin, je cite un courrier notamment où il parle de, il se réveille toutes les nuits, il en transpire, il n'en peut plus, il est secoué par des crises d'angoisse. Il le dit, mais personne ne l'a relevé de son entourage le plus proche. Sa mère, ses sœurs, ses meilleurs amis, ses connaissances, ses fréquentations. Personne n'avait décelé, en fait, une énorme faille dans la vie de cet homme.
Oui.
Et c'est ce qui est fascinant. Hein. Et ce qui est fascinant surtout, c'est qu'il est au bout du rouleau, mais qu'après les faits, il y a quelque chose qui se réenclenche, qui fait qu'il y a une mécanique, c'est presque une mécanique là, qui met en place lors de cette cavale que vous connaissez, hein, qui dure une semaine quand même à travers la France, de Nantes,
avant
de la Beauvoir.
Avant qu'on perde totalement sa trace, oui.
Voilà, et qui est, elle, totalement, je veux dire, c'est comme une balade champêtre, quoi. C'est ce qui rend, en fait, cette affaire très fascinante.
Bien sûr, non, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'en relisant votre enquête, qui est écrite comme un polar, hein, alors qu'elle est fondée, évidemment, étayée par toutes ces vérités, on comprend que cet homme a tellement de facettes qu'il est impossible de dresser un portrait robot, si j'ose dire. Il y a même des incongruités. Vous réexpliquez, Anne-Sophie Martin, au terme d'une journée... idyllique, comment il décide de tuer sa famille. Ils vont au cinéma, une soirée au restaurant, tout se passe très bien, et puis ensuite il va droguer, puis tuer dans leur sommeil ses quatre enfants, sa femme, les deux chiens. Tout ça, je voudrais que vous nous racontiez, parce qu'il y a une scène, il y a un lieu qui vous fait fantasmer dans sa maison de Nantes, mais au sous-sol, dans sa cave, qui lui sert de bureau. Et alors ça déjà, évidemment, c'est quand même très, très angoissant, mais à la fois fascinant. C'est son terrain de jeu et ce sera le terrain de mort. Là, on retrouvera tous ses corps.
Oui, alors c'est vraiment un endroit qui est en plus très inaccessible. Vous voyez, il faut descendre l'escalier extérieur, arriver dans ce jardin qui est très en longueur, assez étroit en longueur, et puis aller sous cette terrasse qui est une dalle de ciment, si vous voulez, hein, au premier étage. Et là, la porte fait un mètre vingt, donc il faut se casser en deux pour rentrer, etc. Et derrière, les policiers redécouvriront, si vous voulez, des cartons de ces projets avortés, une table de ping-pong où il jouait avec les enfants, sa table de travail, ses cartons et pas d'ordinateur, par exemple, hein, celle qui est partie avec le matériel. Mais donc, vous avez raison de dire que j'ai fantasmé, c'est-à-dire que je me suis imaginé cet homme, en fait, vivant ces heures de détresse et de d'incapacité, d'impuissance presque, sous cette maison où tous les siens dormaient dans les étages supérieurs et où les chiens bougeaient, etc. Et en fait, à refaire l'histoire, c'est-à-dire à inventer la fin de cette histoire, à l'insu de tous les autres. C'est ça qui est très fascinant et qui a organisé dans les moindres détails les choses. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'enquête rapporte. Hein. C'est des achats pour creuser. Après, au-dessus de la maison, il va tout arranger pour faire une mise en scène d'une disparition, enfin d'un départ de la famille qui deviendra une disparition. Mais dans les premiers jours d'avril, quand la police arrive, ça semble être un départ
précipité.
Rapide, précipité.
Voilà. Il y a deux versions. La version officielle, c'est départ en Australie sur un coup de tête, et puis la version officieuse, c'est je travaille pour les renseignements et nous partons pour l'Amérique. Je ne peux pas en dire davantage. Et en effet, il y a encore cette scénarisation. C'est vraiment
fiction,
et cette fiction, oui. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans votre ouvrage que je recommande, parce que si vous êtes passionné de faits divers, celui-là est peut-être le summum, hein, d'après ce que vous en dites, Anne-Sophie Martin, 25 ans d'enquête, et celle-ci vous a particulièrement marqué. Affaire non élucidée, Le Disparu, c'est votre ouvrage réédité en poche aux éditions de la Mécanique Générale sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, volatilisé il y a 10 ans maintenant. Merci Anne-Sophie Martin de nous avoir raconté encore un peu de cette histoire terrible. Merci beaucoup.
Merci à vous.